www.libradio.org. Libre Radio, la radio qui t'écoute. Soutiens la radio. Cagnotte populaire solidaire sur le site, merci.
Thomas Boucher, bonjour, salut.
Bonjour, salut.
Alors on se retrouve ici à la salle Gandhi, à la Maison des Associations, à l'occasion du lancement de cette journée pour la grève du 15 mai. Je voulais effectivement te questionner aujourd'hui à propos de cette initiative sur laquelle nous allons voter concernant des avions de combat à vil prix, pourrait-on dire, puisqu'il s'agirait ne serait-ce que pour l'acquisition de 6 milliards. Et si on comptait, mais tu vas probablement démentir ou préciser, s'il s'agissait de comptabiliser également la maintenance, on serait plus autour des 24 milliards.
Oui, c'est exactement ça. Donc, juste pour préciser, c'est un référendum, donc c'est un projet du Parlement actuellement, donc c'est le DDPS qui voulait ça, donc acheter des nouveaux avions de combat. Je le rappelle, en 2014, il y avait la population qui avait refusé le Gripen. Et à l'époque, il s'agissait d'un montant de 3,1 milliards, ce qui est déjà assez énorme. Et du coup, le DDPS était extrêmement frustré après ce refus-là, parce que c'était quand même un premier grand échec pour l'armée suisse. Et du coup, ils sont revenus à la charge, cette fois avec un projet deux fois plus élevé, donc de 6 milliards. Et là, justement, ils ont joué aussi un peu stratégique, parce que quelque chose qui revenait beaucoup dans la campagne du Gripen, c'était finalement que c'était l'avion qui était problématique. Alors, ce qu'a fait le DDPS cette fois-là, c'est simplement qu'ils ont dit, on vote sur une enveloppe. C'est un chèque en blanc, c'est 6 milliards. On ne vous dit pas combien exactement d'avions on prend, ni lesquels. Il y en a 4 pour l'instant qui sont évalués. Donc c'est l'Eurofighter Typhoon de Airbus, le F-35A de Lockheed Martin, le FA-18 Super Hornet de Boeing et le Rafale de Dassault. Donc pour donner une idée aux non-initiés, on va dire, c'est vraiment des avions, c'est des Ferrari de l'air, c'est des avions monstrueux qui coûtent extrêmement cher, c'est le luxe total en termes d'aviation, c'est vraiment le luxe total. Et pour un montant de 6 milliards. Et effectivement, comme tu l'as dit avant, 6 milliards, c'est un chiffre qui est un peu trompeur parce que c'est justement seulement le coût de l'acquisition. Et dans le coût de en plus, comme coût, on a les coûts d'entretien, les coûts de mise à jour de la valeur combative, donc c'est-à-dire que ces avions ils vont durer quand même durant une quarantaine d'années, donc la technologie elle bouge beaucoup, du coup il va falloir mettre à jour la technologie de ces avions, et encore 25%, et ça on va revenir dessus, de carburant. Et du coup on arrive à cette décomposition en tranches de 25%, et comme ces 6 milliards correspondent à 25%, on arrive à 24 milliards, donc, ce qui est absolument énorme. Autrement dit, si on part du principe que ces avions vont commencer à être utilisés autour de 2030, ça veut dire que pendant 40 années, la population suisse aura une sorte d'ordre permanent en direction de l'armée de 600 millions par année, ce qui est absolument immense.
De combien d'avions s'agirait-il? C'est une flotte.
On peut à peu près calculer par rapport au prix des avions. On avance des chiffres entre 35 et 40 avions de combat nouveaux, sachant qu'actuellement, on a encore des FA-18 qui sont encore utilisables jusqu'en 2035, parce qu'ils ont été mis à jour deux fois, une fois en 2008, une nouvelle fois maintenant. Donc finalement, l'idée de cette flotte, c'est de remplacer les FA-18, mais pour l'instant, l'urgence n'est pas là. Mais c'est une flotte assez immense. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est de comparer cette situation avec la situation de l'Autriche, parce que l'Autriche, c'est en termes de démographie, c'est un pays similaire, avec une population aussi de 8 millions. C'est en termes de topographie, c'est un pays similaire aussi, avec un grand massif montagneux, etc. Et l'Autriche a 15 avions de combat. Donc ce serait 2 à 3 fois plus d'avions qu'un pays qui a exactement les mêmes besoins à peu près. Donc c'est assez fascinant. En tout cas.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette mégalomanie d'une certaine manière des militaires?
Bon, c'est un peu lié quand même à l'histoire de l'armée suisse d'une part, parce que vraiment l'armée suisse avait vraiment une importance extrêmement importante jusque, on va dire avant l'initiative du GSSA, jusque dans les années 90, avec un budget spectaculaire, une sorte de, c'était vraiment cette vache sacrée qu'on n'osait pas critiquer, qu'on n'avait pas le droit de critiquer, c'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de tabous qu'on pouvait briser en Suisse, on pouvait critiquer toutes sortes de personnes, mais l'armée c'était extrêmement dangereux, et finalement l'armée avait cette habitude de pouvoir dépenser sans compter, et après l'initiative du GSSA, on a remarqué qu'une part importante de la population était opposée à l'armée. Il y avait quand même 35,6% de la population qui avait voté pour l'initiative du GSSA pour l'abolition de l'armée. L'armée a dû un peu réduire la voilure, mais cette idée, ces ambitions sont restées quand même les mêmes, c'est-à-dire justement avoir une grande part du budget de la Confédération. Et puis l'autre chose, c'est une question très pratique, c'est qu'en fait, si l'armée n'utilise pas tout l'argent qu'il lui a alloué par le budget ordinaire, bah les gens vont dire bah on va réduire le budget de l'armée et puis on va donner plutôt à d'autres domaines comme l'éducation, la santé, etc. Et du coup, bah l'armée essaye de vider tout son budget pour dire bah voilà, le budget de l'armée en ce moment est de 5 milliards. Donc dire bah voilà, c'est 5 milliards, chaque année on en a besoin, on les dépense, regardez, on les dépense là, là, là. Et le résultat de ça, c'est finalement que des munitions doivent être détruites chaque année pour des montants assez incroyables qui se chiffrent aussi en plusieurs centaines de millions. Et voilà, et c'est vraiment là-dedans que s'inscrit cet achat. Mais cet achat, c'est pas seulement réussir à dépenser l'ensemble du budget, comme je le disais avant, mais c'est carrément augmenter le budget, puisque pour acheter ces avions de combat, effectivement, ça c'est quelque chose que les gens disent beaucoup, bah ça fait partie du budget ordinaire, c'est vrai, mais il faudra une augmentation du budget d'ordinaire de l'ordre de 1,4% par année sur les prochaines années, jusqu'en 2030 à peu près. Ça veut dire qu'en 2030, on se retrouvera à 1 milliard de plus, donc un budget de 6 milliards par année pour une armée qui finalement est inutile,
ouais,
comme, ouais. comme on a cessé de le dire avec le geste.
Tu l'as rappelé implicitement, on a fêté en 2019 les 30 ans de l'initiative du GCSA de 1989. Alors voudrais-tu peut-être en quelques mots nous dire quelle était cette initiative, parce qu'effectivement à Genève à l'époque elle était passée, voilà. On était à 51 et des poussières, me semble-t-il. Puis on va juste rappeler l'acronyme GSSA, c'est pour Groupe pour une Suisse sans armée, bien entendu, qui était l'initiatrice de cette initiative.
Voilà, exactement. Bah, finalement, le projet était relativement simple. C'était en fait, le groupe s'est créé autour de cette initiative qui avait pour but d'abolir l'armée suisse, tout simplement. Et il y avait ce fameux slogan qu'on connaît très bien, et je pense qu'on va pouvoir revenir dessus, qui fait lien avec la question du climat. L'armée, ça tue, ça pollue, ça rend con. Et finalement, le fait que tous les hommes du pays doivent faire pendant des années l'armée, soit obligée, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de service de remplacement comme le service civil qu'on a actuellement, soit obligée de faire ça alors que ça coûtait énormément, alors que ça servait strictement à rien, alors que ça polluait énormément, ces personnes-là trouvaient ça révoltant et se sont dit on va se saisir de cet outil que nous donne la démocratie suisse, qui est l'initiative, et on va l'utiliser contre une des institutions les moins attaquables de la Suisse, l'armée. Et voilà, l'initiative a bien fonctionné, a été très difficile parce qu'il y a des embûches qui ont été mises en place pour empêcher parfois les gens de récolter. Il y a du matériel de récolte qui a été confisqué, mais finalement l'initiative avait pu être déposée. Et dans un contexte qui était plutôt favorable avec la chute du mur de Berlin, etc., bah, l'initiative a récolté 35,6% des voix des votants et des votantes, ce qui est énorme. C'est un tiers, alors qu'on pensait justement que l'armée était intouchable.
Il faut le dire qu'effectivement, si au plan fédéral, donc elle n'a pas gagné, on peut dire que moralement c'est une victoire et qu'il y a eu des petits de cela, et notamment le service civil.
Voilà. Je pense rarement dans l'histoire une initiative qui avait perdu avait autant gagné que cette fois-là. Et effectivement, après coup, l'armée a dû beaucoup se remettre en question, réduire ses effectifs de manière extrêmement massive et justement octroyer un service de remplacement. C'était une demande qui existait depuis relativement longtemps, mais finalement, elle intervient trois ans seulement après l'initiative. Donc ça montre vraiment que c'était un élément déclencheur, puisque là, elle n'avait aucune chance avant. Et puis, elle n'aime même au sein du Parlement, puisque c'est par le biais d'une initiative parlementaire qu'elle est arrivée. Elle a été acceptée ensuite, parce qu'il y a eu un référendum, par 80% de la population. Donc ça montre vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement, qui compte extrêmement beaucoup pour les personnes.
Revenons à l'actualité. La date du référendum concernant les avions, à quand est-elle fixée? Et selon toi, s'il fallait, comment dire, non pas donner un pronostic, ce serait beaucoup demandé, mais en tout cas prendre la température, quel est ton état d'esprit?
Donc la récolte, on a lancé la récolte le 6 janvier, donc on récolte depuis le 6 janvier, on a donc 100 jours pour récolter les signatures requises, et la date de votation sera en septembre 2019 normalement. Donc c'est tout bientôt, donc c'est vraiment, toutes les choses s'enchaînent très vite. Au niveau de la votation, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'elle va être plus dure. Pour deux raisons principalement. La première, je l'ai déjà mentionné, c'est parce qu'on ne sait pas quel type d'avion on aura. Du coup, c'est beaucoup plus difficile de l'attaquer. La deuxième, en fait, il y en a trois, j'en ajouterai. La deuxième est liée au fait qu'ici, la façon dont le DPS pose le problème, c'est de dire finalement, on s'exprime sur l'existence même de notre armée de l'air, alors que pour les Gripen, c'est de plus renouveler notre armée de l'air. Là, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour l'armée de l'air. Et la troisième, qui n'est pas des moindres, c'est que la conseillère
fédéral en charge de l'armée, donc Viola Amert, est extrêmement populaire au sein de la population. Et c'est quelque chose qu'on remarque. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, ben voilà, cette conseillère fédérale fait un excellent travail et on lui fait confiance. Alors que ce projet était né avant elle. Mais c'est quelque chose qui est déterminé. Après, il y a aussi un contexte qui a évolué par rapport au Gripen, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est celui de la crise climatique qui effectivement, selon moi, peut jouer un rôle central dans la campagne.
Alors voilà, justement, et bien c'était le sens de la prochaine question. En quoi, du point de vue climatique, des énergies fossiles, et bien est-ce là aussi quelque chose de tout à fait démesuré?
Ce qui est assez impressionnant, c'est les chiffres qu'on peut donner par rapport à la façon dont on pollue ces avions de combat. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple des FA-18, qui est un des avions que l'armée suisse pourrait acheter, c'est un avion qui, en une heure de vol, produit autant qu'une voiture sur 100 000 km. Une voiture 4 litres au 100, donc elle met autant de CO2 qu'une voiture 4 litres au 100. Donc c'est pas une grosse voiture, c'est une petite voiture de ville. Donc, et pour donner une idée de ce à quoi correspond 100 000 km, parce qu'on n'a pas vite fait 100 000 km, c'est 2,5 fois la circonférence de la Terre. Donc c'est quand même assez beaucoup. Donc en une heure de vol, il émet autant. Et du coup, ben, d'un point de vue climatique, c'est absolument catastrophique comme bilan. D'autant plus que justement, si on évalue les autres types d'avions, comme je le disais, ça c'est des Ferrari de l'air, ben, les avions de combat légers consomment moins de kérosène et polluent moins, et les pas d'avions du tout polluent encore moins. Donc ça, c'est vraiment un immense élément au niveau de ces avions de combat.
Encore deux petites questions et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Bien sûr qu'on pourrait répéter le processus avec beaucoup de plaisir en tout cas. Comment les personnes que vous, au devant desquelles vous allez, répondent-elles à ce discours, à ces sollicitations? Y a-t-il des clans d'une certaine manière? Y a-t-il des oppositions et à quoi correspondraient-elles? Classe sociale, âge ou pas? Premier volet de la question. Deuxième question, qu'en est-il des médias? Est-ce qu'on s'aperçoit, parce qu'à l'époque, ça avait fait grand bruit, bien entendu, 30 ans en arrière, qu'en est-il parce qu'on a un monde qui nous entoure, qui est plus complexe, dont on voit bien et qui pourrait prêter à confusion pour certaines personnes?
Pour la première partie de la question, effectivement, comme tu le disais, il y a vraiment des camps. C'est-à-dire, moi, j'ai récolté beaucoup de signatures pour beaucoup d'initiatives, référendums, et j'ai rarement vu des camps aussi marqués au moment du lancement. Ça s'explique partiellement par le fait qu'il y a déjà eu une campagne il y a 5 ans seulement sur des avions de combat. Donc les gens ont pu peut-être déjà arrêter leur position sur la question des avions de combat. Mais pas seulement, ça s'explique. On a vraiment ces deux camps très marqués quand on récolte. C'est-à-dire d'un côté, il y a des personnes qui sont là, oui, bien sûr, je pense absolument pas qu'il faut des avions de combat. Je signe directement sans plus d'arguments, pardon. Et de l'autre côté, on a l'inverse, des personnes qui disent, non, moi je pense que c'est une nécessité absolue. Et il y a relativement peu d'espace pour l'argumentation. Mais, comme je le disais avant, il y a aussi des rencontres qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, je me rappelle d'une rencontre justement avec un ancien pilote de l'armée de l'air qui a signé le référendum. J'ai réussi à le convaincre de signer le référendum.
Wow.
Justement, lié à cette question de disproportion. C'est-à-dire que, fondamentalement, même au sein du camp de l'armée suisse, les gens sont d'accord sur le fait que ces avions, acheter des avions comme ça, ne correspond absolument, même si on est convaincu qu'il faut une police de l'air, une armée de l'air, une armée tout court, beaucoup de gens s'accordent sur le fait que ça correspond absolument pas aux besoins qu'a la Suisse en matière de politique de sécurité aujourd'hui. Et je voulais mentionner une chose qui m'amuse beaucoup d'ailleurs, c'est que si on lit les rapports du DDPS, le DDPS lui-même dit une guerre aérienne est fortement improbable, il faut plutôt se concentrer sur la cyberguerre, etc. Et de l'autre côté, paf, ils arrivent avec 6 milliards. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, et c'est un argument qu'on me ressort souvent, que les personnes qui sont favorables à cet achat me ressortent souvent, c'est qu'elles me disent « Ouais, mais maintenant, peut-être qu'il n'y a pas de menace. Mais vous ne savez pas ce qui peut arriver dans 30, 40 ans, etc. » Et moi, ce qui me fascine, c'est finalement à quel point on est passif et passible face à une menace qui est imminente, qui est extrêmement violente, qui est la crise climatique, et à quel point les gens peuvent se soucier d'une potentielle menace totalement hypothétique, même démentie par les experts de politique de sécurité de nos propres pays qui sont absolument favorables à ces avions de combat, qui pourrait survenir dans 30 ou 40 ans. C'est extrêmement fascinant cette... et presque ridicule de voir d'un côté qu'on a un problème extrêmement urgent, extrêmement menaçant pour la population mondiale, face auquel on ne réagit pas, et un problème qui n'en est pas, face auquel on réagit. Ouais. En mettant 6 milliards ou 24 milliards sur l'ensemble de la durée de vie des avions. C'est fascinant. Oui, j'ai pas répondu
voilà.
Sur la question.
Les médias.
Des camps. Ah oui, des camps
et les médias.
C'est difficile à dire. au niveau des classes d'âge, mais si on raisonne en termes de conditionnement social, on pourrait dire qu'effectivement les personnes qui ont vécu une époque où l'armée était très forte, avait une très grande importance et avait un pouvoir d'auto-légitimation, on peut dire, pourraient tendanciellement être plus favorables. Mais au sein des jeunes, on trouve quand même pas mal de gens. Donc c'est difficile d'avoir un camp générationnel. Et en termes de classe sociale, c'est aussi assez difficile parce que le pouvoir, l'influence qu'a l'armée en termes de conditionnement social, à travers aussi le service militaire, est assez forte. Et du coup, c'est difficile de déceler vraiment des camps. En termes, par contre, de camps politiques, c'est très clair. On a un clivage classique droite-gauche.
D'accord. Ouais. Concernant les médias, à l'époque, effectivement, ils s'étaient emparés, d'une certaine manière, de l'initiative. Qu'en est-il de ce référendum ? Est-ce que c'est assez facile ou, à l'inverse, ça ne répond pas tant que ça ?
Je dirais qu'il y a une présence médiatique assez impressionnante. Et on l'a vu quand on a lancé le référendum, quand on a fait la conférence de presse au centre de presse à Berne. Au centre de presse, donc là où le Conseil fédéral fait ses conférences de presse, etc., ben on avait rarement vu le centre de presse aussi plein que ce jour-là. Donc il y a vraiment une grande attention par rapport à cette question-là. Après, au niveau de la couverture, effectivement, et contrairement à ce qu'on avait peut-être pu avoir avec le Gripen, la couverture n'est pas forcément positive pour nous. Effectivement, la popularité de Viola Lennert a à nouveau joué un rôle. Le fait aussi qu'on dise, ben voilà, effectivement, les Gripen auraient pu être un mauvais achat, mais là, il s'agit vraiment de l'existence même de notre armée de l'air et on ne peut pas discuter de ça, etc., joue un rôle aussi. Effectivement, beaucoup de médias sortent des articles pour essayer de justifier une hypothétique raison ou utilité à cette armée de l'air. Donc, ça va. Honnêtement, on attend vraiment une campagne beaucoup plus difficile que ce qu'on avait. Mais le contexte, avec justement cette crise climatique, a beaucoup changé aussi. La conscience, la politisation aussi des générations. C'est-à-dire qu'on a typiquement toujours on nous rabâche toujours les oreilles avec cette histoire que les jeunes ne veulent pas, etc. Et finalement, on a une grande politisation de la jeunesse. Et effectivement, ça ne se traduit pas forcément par un comportement de vote, surtout quand on voit un peu qu'est-ce que le vote peut apporter, etc.
Oui.
Mais effectivement, sur des sujets clés qui peuvent être très révoltants pour des personnes, typiquement dépenser 6 milliards pour des avions de combat, je pense qu'il peut y avoir quand même une mobilisation de la jeunesse qui se dira, bah voilà, on n'a absolument pas besoin de ça, et je pense que ça peut se faire la différence quand même. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir pour cette campagne, même si je sais qu'elle va être beaucoup plus difficile.
Très bien, très bien. On arrive doucement au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris du temps, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses ici à faire.
C'est un plaisir.
Hein. Aujourd'hui, c'est la casquette GSSA, Groupe pour une Suisse sans armée. Et puis, alors, toute dernière question, voudrais-tu, s'il y avait un appel à lancer, quel serait-il ? Et nous rappeler peut-être site internet du GSSA, ou de quelle manière est-ce qu'on pourrait contribuer à ce que au rapport de signature ?
Bon, la première chose, c'est... Pour contribuer, c'est très simple. Maintenant, c'est participer au référendum. Donc, n'importe qui peut télécharger les feuilles de signature sur aviondecombat-non.ch. Donc, aviondecombat-non.ch. On peut facilement télécharger une feuille de signature et puis faire signer son entourage. C'est toujours assez simple. Et je pense que c'est aussi, par rapport aux questions climatiques ou aux questions aussi de justice sociale, c'est toujours présenter un référendum. Ça permet de lancer des discussions, essayer de convaincre aussi les gens de ses opinions. C'est toujours un bon prétexte. Et ça nous aide beaucoup. Ça, c'est la première chose. Participer aussi aux récoltes. On organise des récoltes nationales. La prochaine aura lieu le 1er février. Par exemple, à Genève, on va récolter au marché de Carouge. Donc, on l'avait déjà fait la dernière fois. Ça fonctionne relativement bien. Donc, venir à ces récoltes-là, ça, c'est une bonne chose. Participer au vote.
C'est déjà pas mal, ouais.
Et pour ce qui est du message, je pense qu'il est relativement simple. C'est, est-ce qu'on veut dépenser 24 milliards pour des avions de combat qui sont inutiles et extrêmement polis?
Toute dernière question. Au GSSA, tout se passe bien. Êtes-vous à la recherche d'une nouvelle génération ou est-ce qu'elle est déjà présente? Et puis, voilà, des personnes qui souhaiteraient un petit peu s'engager. Eh bien, c'est une belle option, le GSSA, le groupe pour une Suisse sans armée.
Oui, effectivement. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on entre dans une nouvelle dynamique. Il y avait cette première dynamique autour de la première initiative, etc. Et puis après, le GSSA était beaucoup présent seulement à travers ces initiatives. Et maintenant, on essaye de relancer justement aussi ce mouvement un peu de base avec des groupes régionaux. On a des groupes régionaux un peu partout en Suisse. Et on est en train d'en lancer en Romandie. On en a un à Genève depuis un certain nombre d'années. Donc les gens peuvent participer, aussi s'informer en envoyant un mail à gssa@gssa.ch. On a aussi un groupe régional maintenant dans le canton de Vaud. On a un groupe régional dans le canton du Valais qui est un canton extrêmement conservateur, donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant au niveau des enjeux aussi. On essaie de construire aussi un groupe régional dans le canton de Neuchâtel et de Fribourg, éventuellement peut-être un jour dans le canton du Jura. Et du coup, ça, c'est un bon moyen de s'engager. Et justement, ben, typiquement, ce que font ces groupes régionaux, c'est faire des actions, des récoltes, discuter avec les gens. On aimerait aussi bien retourner devant les lieux de recrutement pour essayer de tracter, pour essayer de convaincre les gens de ne pas faire l'armée. Et donc ça, c'est assez prometteur. Et je pense que effectivement, avec la question du climat, les convergences entre l'antimilitarisme et le climat sont très présentes. Et je pense que c'est une bonne raison de s'engager ici aussi.
Les convergences, comme tu l'as dit. Et puis alors, quelle fin a fait cet avion, cette grande maquette que vous aviez mobilisée jusqu'à Berne?
En fait, c'était un avion qu'on avait construit pour justement dire que face à tout projet d'avion de combat, on lancerait le référendum. Il avait été construit et chaque année, on a une assemblée annuelle au restaurant Kreutz à Solaire où avait été fondé le GSSA en 1982. Et du coup, ben, on retourne chaque année et chaque année on a une action. Et finalement, ben, on a recyclé cet avion, on l'a utilisé. On est allé l'amener, emballé d'un nœud papillon. On est allé l'amener sur la place fédérale pour dire, écoutez, cher conseil fédéral, votre cadeau de Noël, on n'en veut pas. Reprenez-le et gardons ces 6 milliards pour des problématiques beaucoup plus urgentes, comme la question du climat, comme la question de l'éducation, comme la question de la santé.
Merci beaucoup Thomas, bonne continuation et à bientôt.
Bonne journée.
Ciao.